empreinte.
Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de changemakers, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Benjamin Bajal, fondateur de Ma Petite Maison Verte, un projet de l'économie sociale et solidaire ayant pour objectif de réduire l'impact environnemental des logements avec des matériaux recyclés et non toxiques. Vous ne connaissez pas encore cette marque responsable? Eh bien, pas de panique. Benjamin nous en dira un peu plus dans quelques instants. Bonjour Benjamin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout de suite ce qu'est Ma Petite Maison Verte?
Oui, donc Ma Petite Maison Verte, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. On dispose de l'agrément ESUS, c'est-à-dire qu'on est reconnu d'utilité sociale par l'État. Et notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est de réduire l'impact environnemental des logements. Et pour ce faire, en fait, on construit des habitats qui sont en ossature bois et en isolant carton recyclé. Donc vous direz, le carton recyclé...
Est-ce que c'est fragile ou pas, on souffle dessus,
ça s'envole, voilà. On connaît les trois petits cochons, l'histoire, on la connaît assez bien. Mais du coup, non, le carton est plutôt résistant. C'est un matériau français qui est breveté, donc ça s'appelle de l'IPAC, concrètement. Et en fait, c'est du carton qui est recouvert d'un film plastique recyclé et qui permet de résister à l'eau, au feu et au vent. Donc voilà, on construit nos maisons avec cet isolant-là. On a également de la laine de bois comme isolant pour être plus classique. Et notre particularité, c'est que nos ateliers de menuiserie sont dans un ESAT, donc un établissement pour travailleurs en situation de handicap. Et nous, dans notre équipe, on intègre également des travailleurs en situation de handicap. Voilà notre particularité.
Oui, j'ai l'impression que, en tout cas dans votre démarche, l'humain est au cœur de tous vos projets.
Oui, totalement, totalement. Pour aller vraiment plus loin, on essaie de boucler la boucle puisque nous, dans notre équipe, la valeur humaine est vraiment principale. Également la valeur technique, parce qu'on construit des maisons, donc il faut quand même des grands professionnels. Mais la valeur humaine est très importante. Pour vous donner une petite idée sur notre équipe, on est 13 actuellement et on a vraiment une diversité dans l'équipe. On a une architecte qui est brésilienne, on a des plombiers qui sont ukrainiens, on a un mauricien comme charpentier, on a un anglais, on a un sud-africain, on est nous-mêmes français et antillais. Donc on est vraiment une équipe cosmopolite, diversifiée et hétérogène. Et c'est ce qu'on veut prôner dans notre démarche sociale. En plus, on intègre les travailleurs handicapés, comme j'ai pu l'expliquer avant. Et à la fin, nos projets ont pour finalité d'aider un public précaire. Donc, exemple concret, le village qu'on fait à Ivry-Courcouronnes en ce moment, c'est pour loger des étudiants en situation de précarité. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir un impact environnemental, certes, mais également social.
Votre business model est clairement très inspirant. D'où l'idée vous est-elle venue ?
Alors l'idée est venue assez, on va dire par hasard, puisque c'est en regardant une émission à la télé où on expliquait justement le nouvel isolant qui est le carton recyclé, l'IPAC. Il y avait un reportage dessus disant que ça avait été installé sur l'île de Ré, que ça résistait aux tempêtes, au vent et tout ça. Et j'ai dit, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je voulais m'investir, on va dire, dans la construction et dans l'immobilier. Et voilà, donc j'ai contacté Anna, qui est mon associée aujourd'hui, Anna Ketia, et qui est mon amie d'enfance, puisqu'on se connaît depuis le collège. Donc c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, on se connaît très bien. Elle est spécialiste sur la partie technique, puisqu'elle a un BTS bâtiment et elle a travaillé en rénovation de l'habitat. Et moi, j'ai plutôt la casquette entrepreneuriale, parce que j'ai une association et une autre entreprise dans la formation. Donc, je suis déjà dans le milieu, donc on s'est associés sur ce projet. Donc, l'idée, concrètement, vient d'une volonté déjà profonde d'être dans ce secteur-là, ça c'est sûr. Mais l'idée en elle-même vient d'une découverte par hasard à la télé, simplement.
Et Benjamin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?
Oui.
Ou un entrepreneur, est-ce qu'on doit lui poser ce genre de questions ?
Comment ne pas rencontrer de difficultés ? Non, le quotidien est une difficulté. Honnêtement, on a été créé en novembre 2019. Donc après, on a eu la crise de la Covid. On a eu récemment, on le vit tous, particuliers, professionnels, les augmentations de prix dues à divers événements. Mais voilà, donc on le vit assez fortement. Et puis on a des difficultés, comme toute entreprise, on va dire, dans le bâtiment, de trésorerie, puisqu'il y a des fortes commandes. Donc on a de la demande, ça c'est sûr. Mais les délais de livraison, d'acheminement de matériaux, de construction, de paiement. Bref, on a pas mal d'échéances et de difficultés. Je dirais honnêtement, sur tous les points, il y a des petites difficultés, mais c'est ce qui fait le quotidien de l'entrepreneur social et c'est ce qui fait aussi la passion. C'est le fait de voir qu'au fur et à mesure, on arrive à surmonter ces difficultés. C'est ce qu'il y a, on va dire, quasiment le plus intéressant dans le secteur.
Vous avez un slogan qui est très beau dans votre entreprise, c'est un petit habitat pour l'homme et un grand geste pour l'environnement. Est-ce que c'est un exemple de projet dont vous êtes fier ?
Oui, alors on a plusieurs exemples de projets qui nous rendent particulièrement fiers. Je donnerai un exemple, celui du village à Évry-Courcouronnes qu'on réalise. Donc c'est un ensemble de petites maisons, donc de petits habitats. Donc ça va de 13 mètres carrés à 44 mètres carrés. Donc ça va du logement seul au logement en colocation, tout écologique. Donc en ossature bois, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y aura des panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, on a un partenariat avec un lycée à Ris-sur-Rangis qui permet aux étudiants de pouvoir installer les panneaux photovoltaïques. Ça s'appelle des chantiers écoles. Voilà, on intègre également l'écosystème local dans ce chantier-là et in fine pour loger des étudiants précaires. Donc un petit habitat pour l'homme, un grand geste pour l'environnement et même pour la société, je dirais, c'est un peu l'idée. C'est de dire que grâce à nos petits habitats, on arrive à faire du bien à l'environnement et également aux bénéficiaires des logements par la suite.
Ça peut même leur donner des vocations et puis en tout cas les responsabiliser dans leur habitat. C'est ça qui est beau aussi.
Totalement. Dans le fonctionnement du village, on a un système un peu comme à l'école avec des délégués de classe, par exemple, qui font l'intermédiaire avec les professeurs. Ben, nous, c'est un peu la même chose. Le village sera paritaire. Il y aura autant d'hommes que de femmes. L'idée, c'est de pouvoir chaque mois avoir des délégués qui se relayeront chaque mois, qui feront attention au bon déroulement du village, que tout le monde se sente bien, que s'il y a des difficultés, de les faire remonter. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée.
Génial. Quel est, selon vous, le design idéal pour un habitat écologique et accessible? Non seulement en termes de coûts, mais aussi d'inclusion.
Design idéal, c'est un peu compliqué à dire. C'est pas forcément ma compétence première, on va dire, sur ce sujet-là. Mais selon moi, ça dépend en fait de la localisation et de la spécificité du territoire. Parce qu'il y a des territoires qui sont en forte densité. Donc là, le design idéal, je vous dirais que c'est plutôt des constructions qui vont en étage pour pouvoir loger le plus de monde, être aussi efficace. Mais il y a aussi cette problématique de se retrouver chez soi, de se retrouver en tranquillité, de se retrouver avec son potager, son jardin. Il y a aussi ça qui revient beaucoup. C'est monté en flèche depuis la crise de la Covid. Donc, ça dépend du territoire, je dirais. Mais si je dois vraiment donner mon avis, ce serait plutôt des petits habitats pour permettre justement au niveau du design intérieur d'optimiser l'espace plutôt que d'avoir de grands espaces qu'on n'utilise pas. Des petits espaces efficaces, optimisés, ça permet de faire des économies d'énergie également. Comme on connaît les difficultés aussi avec l'énergie et l'électricité. Donc voilà, donc ce serait un logement, selon le nombre de personnes, disons pour une famille de 4 personnes, ce serait un logement de 60-70 mètres carrés qui permet justement d'être optimisé, surtout dans l'aménagement intérieur.
Aujourd'hui, Benjamin, il existe des normes réglementaires liées à la résistance, la qualité de l'isolation ou encore l'impact environnemental d'un logement. Quelles sont les matières que vous utilisez et en quoi répondent-elles aux impératifs de construction durable ?
Oui, donc nous on utilise du bois de toute construction classique. On s'approvisionne auprès des grands fournisseurs de bois nationaux. Donc on n'a pas de différenciation entre nos petites maisons et des maisons, on va dire, plus grandes construites en bois. Elles ont toutes les normes PEFC. Elles respectent la biodiversité. Tous nos bois sont issus de Scandinavie, donc on reste en Europe. Donc on a toutes ces normes là. Et par dessus, on respecte la RE 2020, donc qui est la loi sur la performance énergétique et acoustique des logements. Et de plus, on a une architecte en interne, mais on travaille également avec un cabinet agréé qui permet à chaque construction de certifier la résistance quand même des bâtiments et la performance.
Et quel est, selon vous, le rôle du design dans la construction de demain ?
Le rôle du design, moi, je reste surtout sur des questions d'optimisation. Je pense que la population augmente, les besoins changent. En termes d'aménagement intérieur, je pense que c'est là où le design doit surtout intervenir pour optimiser les espaces. On a aussi quand même cette problématique de société nomade. Les personnes déménagent, bougent beaucoup en réalité à cause du professionnel, à cause du personnel. Et dans notre cas, nos maisons sont démontables. Donc, peu importe la superficie, on peut démonter les murs et les remonter ailleurs. Ou alors, pour les plus petites maisons, les tiny house, donc moins de 20 mètres carrés, elles sont déplaçables, elles sont sur remorque et on peut directement les déplacer.
Donc, les gens vous commandent beaucoup de tiny house, par exemple ?
Il y a une forte demande, au niveau des tiny house, parce que justement les personnes veulent être bien chez elles, mais pas forcément au niveau du terrain, elles veulent bouger énormément. Donc on a ce sujet-là qui revient énormément. Et oui, nos plus grandes ventes, ce sont les tiny house auprès des particuliers. Et puis également, au niveau des professionnels, on fait des bâtiments administratifs. Donc, les besoins sont variés. Mais au niveau du design, je pense qu'il y a cette notion quand même d'espace intérieur de vie et peut-être de mobilité de l'habitat. C'est un peu complexe à aborder
Mais c'est une révolution, en fait.
C'est ça. Ça vient des États-Unis et ça fonctionne énormément aux États-Unis où il y a beaucoup de personnes qui vivent en tiny house et qui se déplacent de ville en ville en fonction du travail, des envies, des vacances et autres. Mais il y aurait ce sujet-là qui arrive de plus en plus en Europe.
Et avec toute votre expertise, Benjamin, qu'est-ce que, selon vous, une marque utile ?
Alors, une marque utile, ça dépend encore une fois de quel point de vue on se place. Selon moi, il y a deux notions pour savoir si une marque est utile ou pas. La première notion, c'est au niveau de l'usage et du produit qu'il propose. Donc, est-ce que si ce produit n'était plus sur le marché, est-ce que ce serait si grave pour les consommateurs ? Ça, c'est une vraie question. Nous, on a tendance à croire que si notre produit qui propose du logement, de l'habitat social n'était plus sur le marché, ça pourrait être, on va dire, problématique ou moins impactant pour certains consommateurs. Donc, sur ce point-là, je considérerais qu'on est plutôt une marque utile. Mais à l'inverse, il y a aussi le public touché, il y a aussi le volume produit et il y a aussi l'impact sur les emplois. Et pour moi, une marque utile, c'est également une marque, peu importe, ça dépend. Il y a des sujets quand même assez difficiles. Mais à partir du moment où on apporte quand même de l'emploi aux personnes, pour moi, c'est aussi une marque utile. Donc, il y a l'aspect produit et à l'aspect création d'emploi qui est très important.
Essentiel, en effet. Et alors, pour finir, Benjamin, vous, en 2023, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte ?
En tant que start-up, c'est plus à l'horizon 5-10 ans. En 2023, on n'aura pas énormément d'impact, pour être très honnête. Nous, notre impact, il est surtout sur l'emploi, comme je l'ai dit, avec l'équipe qu'on a, avec les travailleurs en situation de handicap qu'on forme et qu'on insère dans nos chantiers. Donc, l'impact, il est là, il est tangible de ce niveau-là. Mais sur l'aspect environnemental, écologique, impact social, il nous faut, là, on fait un village de 14 maisons pour 30 étudiants. Il nous faudrait 200 maisons pour 500 étudiants. Voilà, il faudrait l'impact qui se mesurerait une fois qu'on aura atteint un volume assez important. Mais pour le moment, notre impact, il est quantifiable, surtout sur nos valeurs, sur notre équipe, sur l'insertion qu'on fait pour le moment, mais à très faible échelle. Donc 2023, c'est de continuer comme ça dans cette dynamique et puis après, dans les 2-3 prochaines années, là, dupliquer.
On vous souhaite une très belle empreinte utile, visiblement, et humaine.
Merci.
Merci Benjamin.
Merci de m'avoir reçu.